7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et à 18h40, ailleurs dans le monde, bonsoir Vanessa Descoureaux. En Hongrie, Vanessa, le retour de méthodes qu'on croyait d'une autre époque.
Oui, c'est la traque des tziganes. Il y a quelques années, des milices d'extrême droite ont semé la terreur dans les villages où les Roms sont majoritaires. Depuis, ces milices ont été dissoutes, sauf qu'aujourd'hui, c'est la droite nationaliste sortie vainqueur des urnes, la droite du Premier ministre Viktor Orban, qui mène une politique anti-tzigane et même de manière plus insidieuse certainement que l'extrême droite en son temps, comme on va le voir avec Florence Labruyère. Bonjour Florence.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Hongrie. Vous êtes rendue dans une ville où la droite au pouvoir donc exclut littéralement les Roms du logement social.
Oui, je suis allée à Székesfehérvár. C'est une ville de 100 000 habitants à 65 km de Budapest. Il y a beaucoup d'industries, de multinationales qui s'y sont installées. C'est une ville riche et la droite populiste qui a la majorité au conseil municipal résilie petit à petit le bail des familles qui ont un logement social. Les Roms sont les premiers visés. En Hongrie, il faut savoir que la communauté Roms est estimée à 700 000 personnes sur 10 millions d'habitants. Et les Roms occupent des postes peu qualifiés ou bien sont sans emploi. Alors beaucoup sont locataires d'appartements à loyer modéré. Je suis allée dans le grand centre commercial de la ville, où on peut se balader au chaud en hiver, et j'ai rencontré une femme rome de 47 ans, impeccablement habillée et maquillée. Depuis que son bail a été résilié et qu'elle a été expulsée en août dernier, elle est sans domicile fixe.
Je dors dans les cages d'escalier des immeubles. Je vais me laver à l'hôpital public ou aux toilettes de la gare routière. Et pendant la journée, je vais au centre commercial.
Vous n'avez pas de la famille qui peut vous héberger ?
Je n'ose pas aller chez eux. Si on savait que je dors là-bas, ils risqueraient de perdre leur appartement. On les expulserait.
On comprend bien que cette femme a peur de causer des ennuis à ses proches. Est-ce que c'est une crainte réelle ou fantasmée ?
Eh bien, il y a quelques mois, quand la mairie a averti les premières familles que leur bail était résilié, ces familles ont donné des interviews à la presse. Elles ont aussitôt été expulsées. Alors, les gens ont peur. Ceux dont le bail n'a pas encore été résilié ne veulent pas parler et ils ont peur d'héberger des proches.
Est-ce que ces locataires avaient des problèmes pour payer, des arriérés de loyer ?
Non, à part quelques exceptions, ces familles n'ont pas de dettes. Elles payaient leur loyer rubis sur l'ongle. En fait, ces Roms font partie de la petite classe moyenne. J'ai même rencontré le président du conseil local des Roms, une institution culturelle créée par l'État. Lui aussi a perdu son logement social. Depuis qu'il a été expulsé en octobre, il habite dans son bureau, dans l'hôtel de ville. Erne Kolompár est persuadé que la municipalité de droite veut chasser les Roms de la ville.
Bien sûr, il y a aussi des familles non-Roms qui ont perdu leur logement social. Mais 85 à 90% des gens expulsés sont roms. C'est de la haine ethnique, c'est du racisme anti-tzigane. J'ai écrit à tous les partis, y compris les socialistes. Et je leur ai dit, on veut nettoyer la ville de ces roms avant les élections de 2018.
Alors Florence, est-ce que le maire justifie la politique qu'il est en train de mener ?
Le maire n'a pas souhaité me répondre, mais j'ai rencontré un élu de l'opposition socialiste. Alors il faut savoir que contrairement à la France, en Hongrie, la loi n'oblige pas les communes à investir dans le logement social. Mais ce qui est étonnant, Vanessa, c'est que Roland Marton, cet élu de gauche que j'ai rencontré, défend la politique de la majorité.
Nous avons mis en place une nouvelle politique. Un locataire ne peut bénéficier d'un logement social que pendant 7 ans. Aujourd'hui, il y a 400 à 500 personnes sur la liste d'attente. Donc vous voyez, le logement social est devenu une aide temporaire. C'est pour ça qu'au bout de 7 ans, la ville ne renouvelle pas le bail. Il faut que les citoyens aient tous accès à tour de rôle à un loyer modéré et c'est la seule solution.
D'après cet élu socialiste, il y a donc une longue liste d'attente pour avoir un logement social. Mais je suis allée voir un immeuble dont les locataires ont été expulsés il y a un an et demi. C'est un petit bâtiment à un étage où vivaient plusieurs familles. Eh bien, il est vide. Personne n'y a été relogé, bien qu'il soit en bon état.
Alors, est-ce que les locataires expulsés ont au moins possibilité de recours ? Est-ce qu'ils peuvent porter plainte ?
Non, parce que finalement, tout cela est légal. Et ce n'est pas la première fois. Il y a 20 ans, sous un autre gouvernement, sous d'autres couleurs politiques, la ville avait déjà essayé de chasser les tziganes. Mais de nombreuses manifestations l'en avaient empêché. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que personne ne réagit. Seule une petite association, le Parlement Roms, défend les familles expulsées. Cette association a porté plainte auprès de la haute autorité contre les discriminations. La haute autorité étudie le dossier, mais elle n'a qu'un pouvoir consultatif.
Voilà, reportage édifiant. Merci à vous, Florence Labruyère, qui nous appeliez de Budapest, en Hongrie.
Et deuxième étape, Vanessa, en Afrique de l'Est, en Ouganda, où le plus grand camp de réfugiés au monde est en train de voir le jour.
Dans le nord du pays, le camp de Bidibidi, où 260 000 personnes se sont réfugiées ces 6 derniers mois seulement. Jusqu'ici, ce triste record, si on peut dire, est détenu par le camp de Dadaab au Kenya. Ces réfugiés viennent du Soudan du Sud voisin. Population éreintée, traumatisée par les horreurs de la guerre civile qui sévit dans le plus jeune pays du monde depuis le début des violences, c'est-à-dire à l'hiver 2013, en tout, 1,5 million de personnes a trouvé refuge dans ce pays de la région des Grands Lacs. Et trouver refuge, dans ce cas précis, n'est pas qu'une expression. Bonsoir Delphine Evenou.
Bonsoir.
Car la politique de Kampala détonne dans le contexte actuel. Tout est mis en œuvre pour un accueil de ces réfugiés, accueil réussi et durable.
Il y a même une loi très généreuse appliquée depuis 2009 afin de leur garantir protection et autonomie. Les Sud-Soudanais qui franchissent la frontière passent d'abord par un camp de transit, enregistrement auprès des autorités, visite médicale, une nuit sur place, puis un bus les emmène à Bidibidi, un camp ou plutôt un village. Car l'idée, ce n'est pas qu'ils patientent avant de rentrer chez eux, mais bien qu'ils construisent une nouvelle vie en Ouganda. Et Yann Libessard, coordinateur de Médecins Sans Frontières en Afrique de l'Est, revient tout juste de Bidibidi.
On leur distribue quasiment tout de suite un peu de matériel pour s'installer, des bâches en plastique, un peu d'outils pour directement attaquer la savane. C'est-à-dire directement, les gens y vont à la machette, coupent du bois. On les installe vraiment au milieu de nulle part, là où il n'y a pas encore grand-chose en termes d'assistance. Et je pense que la politique du gouvernement ensuite, d'allouer comme ça des terrains, même si c'est un peu au milieu de nulle part, la logique de l'Ouganda, c'est quelque part de transformer ces zones et ces régions en zones habitables et qu'à terme, les camps de réfugiés soudanais deviennent des villages. Je pense qu'eux aussi, ils voient une opportunité économique. Ça crée un boom économique dans cette région qui, au final, bénéficie à tout le monde. Mais les gens que j'ai pu interroger ne parlent pas de rentrer au Sud-Soudan. Ils ont l'impression d'avoir, en gros, déménagé dans une nouvelle région. Et certains parlent, voilà, de rester là pour toujours.
L'Ouganda est régulièrement cité en exemple par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais le revers de la médaille, c'est que le pays commence à être débordé.
Alors Delphine, les flux migratoires sur cette frontière sont très très importants ces derniers mois spécialement, car la situation au Sud-Soudan est effarante, aussi terrifiante d'ailleurs que le silence, le désintérêt même de la communauté internationale à ce sujet.
Il y a une semaine, l'ONU, résolution sur un embargo sur les armes rejetée. Aucune autre initiative en vue. Pourtant, les experts des Nations Unies ont dénoncé début décembre des signaux de génocide imminent, un nettoyage ethnique en cours. Villages détruits, massacres ciblés, viols collectifs. Human Rights Watch avait alerté sur la situation dès 2014. Et chaque camp a sa part dans les atrocités qui se déroulent. Celui du président Salva Kiir, qui appartient à l'ethnie Dinka, et celui de Riek Machar, ex-président rebelle, un UR. Le conflit civil a repris de plus belle cet été et a remis la population sur les routes. Les combats risquent encore d'empirer, selon Yann Libessard de MSF.
C'est vrai qu'historiquement, le mois de décembre est le début de la saison sèche où ça devient plus facile de se déplacer quand on a des troupes et concrètement plus facile de faire la guerre. Le mois de décembre fout les jetons à tout le monde parce que c'est assez classique dans la région, c'est quand les pluies s'arrêtent, on voit la même chose souvent en Centrafrique. Les gens commencent, s'ils ont décidé de faire des mouvements d'envergure et des attaques d'envergure, c'est là que ça va se produire.
Et vous ajoutez à cela une crise alimentaire sans précédent. Le bilan de cette guerre oubliée est de plusieurs dizaines de milliers de morts et 3 millions de déplacés.
Merci Delphine Evenou du brillant service reportage de France Inter.
Et Bagdad désormais, Vanessa, avec l'histoire d'un commerçant nostalgique de Saddam Hussein.
Car le dictateur irakien a été pendu il y a 10 ans, tout juste demain précisément. Image dérangeante et historique à la fois, souvenez-vous, saisie par un téléphone d'un homme qui assistait à cette scène donc, et dont on n'a jamais vraiment su comment il avait fait pour sortir cette vidéo d'une pièce qu'on imaginait pourtant ultra sécurisée. Eh bien, 10 ans plus tard, voilà que le portrait du tyran de Bagdad refait surface, non pas dans les rues de la capitale irakienne, quand même, il ne faut pas exagérer, mais dans un petit magasin de la ville, un magasin d'antiquités, où Anwar, qui tient cette boutique, propose des bibelots, des affiches, des timbres à l'effigie de Saddam Hussein. Et il y a même, il en est très fier, une ceinture que le Raïs aimait offrir à ses officiers méritants. Anouar passe son temps à collecter ces objets à l'effigie de Saddam Hussein et c'est surprenant passe-temps, surtout quand ce Baghdadi prend la peine de préciser qu'il est chiite, confession particulièrement écrasée sous le règne du tyran. C'est la nostalgie, peut-être pas si isolée que cela, d'un jeune Irakien qui regrette la sécurité du temps de Saddam, alors que l'Irak d'aujourd'hui est en lambeaux sécuritaires, confessionnels et même économiques.
Vanessa Descoureaux, merci.